Commençons. Il existe des maladies d'origine spirituelle. Ici, j'ai un petit livre qui a été fait par Kurt Koch. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un Européen qui a étudié beaucoup les cas d'occultisme, même chez les chrétiens. Le livre s'appelle « Esclavage occulte et délivrance ». Et dans son livre, Kurt Koch nous dit « Un neurologue chrétien a dit une fois, 60% des patients de ma clinique psychiatrique ne souffrent pas autant de maladies mentales que de suggestions occultes ou même de possessions démoniaques. » Et un psychiatre anglais a déclaré une fois, « Si je pouvais obtenir le pardon des péchés des patients de ma clinique, je serais en mesure d'en renvoyer la moitié demain. » Ça n'a pas été dit par des gens à la légère, mais des gens qui sont impliqués dans les soins psychiatriques, les soins de maladies mentales. Donc, on voit ici l'action démoniaque, on voit ici le lien avec les péchés. Sûrement pas dans tous les cas, je veux pas qu'on exagère là-dedans, mais pour beaucoup de cas de maladies mentales, il y a une origine spirituelle. Et les médicaments peuvent aider, mais ne régleront pas un problème spirituel. Est-ce que ces problèmes peuvent se retrouver chez les chrétiens, problèmes de maladies mentales? Je pense que, hein? Si on dirait non, on serait tous des menteurs. Donc, je nommerai pas tous les cas de maladies mentales qu'on peut retrouver chez nos frères et sœurs bien-aimés, mais oui. Et dans certains cas, certainement qu'il y a une origine démoniaque. Avant d'aller en profondeur, j'aimerais qu'on pose des fondements pour avancer en sécurité dans la révélation de la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien et une chrétienne peut perdre son salut? Ça a l'air un peu hors d'ordre, mais c'est extrêmement important, parce que quand on parle des démons, de l'action du diable, on peut avoir peur et puis se sentir ébranlé. Ce fondement est extrêmement important, le casque de l'assurance du salut, de l'espérance du salut, que nous dit Paul. Non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Je le dis avec une pleine conviction. C'est ce que l'Écriture nous montre. Paul va dire que les croyants, ceux qui ont cru en Jésus, ont été scellés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, scelle, c'est-à-dire un sceau de propriété. Le deuxième aspect de sceller, c'est le fait de garder, conserver. On va dire des fois quelque chose qui est scellé sous vide. Donc, c'est garder, c'est conserver. Et ce Saint-Esprit, Jésus va nous dire qu'il habite éternellement avec nous. Je vais vous donner un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, ce sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous. L'éternité, c'est l'éternité. Paul va dire, dans l'Épître aux Romains, « Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Il venait de parler des anges, un peu avant, des démons. « Aucune créature et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et finalement, la doctrine de la prédestination qui fait que ceux qui sont sauvés, Dieu va les rendre à la glorification, à la résurrection. Donc, c'est comme un paquet de gil, si vous me permettez l'expression. Donc, non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Quelle merveilleuse doctrine de la sécurité du salut, qui nous permet d'aborder d'autres sujets difficiles avec confiance. Maintenant, un chrétien, une chrétienne ne perdra pas son salut, si c'est un enfant de Dieu, mais est-ce qu'il peut être attaqué par les démons? La réponse est oui. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on est sujet à des attaques de notre ennemi. Prenons le cas de Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Job était riche, il avait beaucoup d'enfants, il a perdu tout ça. Il a eu des maladies dans son corps, des maladies épouvantables. Et même si on lit bien, on va voir qu'il y avait des cauchemars. Et toutes ces afflictions-là lui venaient de Satan. C'est écrit, on le lit noir sur blanc. Non pas parce que Job était un pécheur. La parole dit que Job était un homme intègre qui craignait Dieu. C'est justement à cause de ça qu'il a été mis à l'épreuve, parce que Satan espérait le faire maudire Dieu. C'était l'enjeu du livre de Job, que Job maudisse Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Il a glorifié Dieu. Jésus, sans péché, le seul juste, a été tenté au désert par le diable, qui a même osé le prendre pour le transporter dans les airs. Les chrétiens pieux, Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si la persécution ne vient pas des hommes, elle va certainement venir d'ailleurs. L'Apocalypse nous en donne une idée. Et le dragon, retenez ce mot, ça va revenir à quelques fois, le dragon. Et le dragon fut irrité contre la femme, Israël. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Le dragon qui représente Satan fait la guerre à ceux qui observent les commandements de Dieu, gardent le témoignage. Donc, aux chrétiens pieux. Okay. Il y a une guerre. OK. Est-ce que maintenant un chrétien peut être possédé du diable ou d'un démon? C'est une question qui est souvent posée et ça amène à toutes sortes de débats, de discussions. La réponse, c'est non. Un chrétien est une possession de Dieu. OK? On n'a pas deux propriétaires. Si j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, pas à un autre. Je ne suis pas possédé par un autre. Paul va dire, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » On ne s'appartient même pas à nous-mêmes. Souvent, on croit qu'on a beaucoup de liberté, mais on ne s'appartient même pas à nous-mêmes. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » On sait qui nous a rachetés. Que le Christ ne nous a pas rachetés du diable en passant, comme il y a des fausses doctrines qui circulent des fois sur Internet. Il nous a rachetés à Dieu, à la justice de Dieu. Un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma sœur. En aucun cas, tu ne saurais être possédé par le diable ou un démon. Dans le sens de posséder, appartenir. Mais ce mot posséder, en fait, la traduction possession, posséder, qu'on a dans nos versions françaises, quelques versions anglaises, c'est contesté. Je vais vous présenter ici l'opinion de Neil Anderson, qui a écrit un livre, Le Libérateur, en français. En grec néo-testamentaire, l'expression « possédé par un démon » n'existe pas. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. On trouve un mot unique, « daimonizomai » ou « daimonizomenos », que l'on peut translittérer par « démoniser ». Cette notion est aussi rendue par l'expression « ekein daimonion » qui signifie « avoir un démon ». Donc, finalement, ce que le grec semble dire, d'après plusieurs auteurs, ce n'est pas l'idée de posséder, c'est l'idée d'être démonisé, d'avoir un démon. Et lui, Neil Anderson, va donner une petite définition. « Être démonisé signifie être sous la domination d'un ou plusieurs démons. » OK? Et c'est avec ce terme-là que je vais continuer pour le reste. Je n'utiliserai pas le mot « posséder » parce que ça porte à confusion et c'est sans doute pas une bonne traduction. Ceci étant dit, est-ce qu'un chrétien peut être démonisé? On a dit qu'il ne peut pas être possédé, mais est-ce qu'il peut être démonisé? Avoir un ou plusieurs démons? La réponse est oui. C'est généralement une conséquence de l'impiété. On a vu qu'on peut être attaqué à cause de notre piété, mais l'inverse est aussi vrai. La présence du péché dans notre vie qui ouvre une porte. Et je vais parler de quatre situations possibles. Il y en a sûrement d'autres. Premier cas. La Bible dit qu'un chrétien peut donner accès au diable. C'est Paul dans Éphésiens qui nous le dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, peu importe ce que ça veut dire, le mot accès, en passant, apparemment c'est topos. En grec, une colère qui n'est pas réglée, qui perdure dans le temps et qui dégénère en amertume, en non-pardon, etc., ça donne un accès au diable. Et les personnes démonisées, généralement, c'est un trait caractéristique, ont des accès de colère. Pardonne pas. Premier cas. Deuxième cas, un chrétien peut être livré à Satan. C'est assez sérieux, hein, n'est-ce pas? Dans le cas de l'immoralité sexuelle, dans la première épître aux Corinthiens, puis la deuxième, on parle du cas d'une personne. Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et on voit dans la deuxième épître que cet homme-là s'est repenti et qu'il a été restauré. Mais il a été livré à Satan. Ce n'est pas juste une excommunication, c'est plus que ça. Il est livré à Satan. Blasphème. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, je ne sais pas tout ce que ça veut dire ici, blasphémer, mais c'est un autre cas où des personnes, l'apôtre Paul, dans son autorité apostolique, a livré à Satan afin que sanctification. Donc, le diable, malgré lui, joue un rôle dans la sanctification des enfants de Dieu. J'aimerais m'arrêter un peu là-dessus, la souveraineté de Dieu. Dieu ne travaille pas main dans la main avec le diable. Dieu est saint, Dieu est bon, il est le mal. Mais dans sa souveraineté, dans sa supériorité, il utilise même les méchants pour faire concourir les choses à notre bien. Salomon va dire, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Il n'y a rien qui échappe à ses plans. Et un exemple qui est donné par le prophète Ésaïe, c'est l'Assyrien, l'envahisseur assyrien, qui est venu attaquer le peuple d'Israël, qui était rendu dans l'idolâtrie. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, c'est Israël du Nord. Mais il n'en juge pas ainsi, il ne songe qu'à détruire. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. » Puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. Donc Dieu a pu se servir d'un Assyrien méchant, conquérant, pour corriger son peuple. Et il est capable de se servir de Satan, le grand méchant, pour corriger son peuple aussi. Mais lui, Satan, il ne le fait pas pour le bien. Dieu permet ça pour notre bien, mais Satan, lui, ne songe qu'à détruire, comme l'Assyrien. Et un jour, la colère totale de Dieu va s'abattre sur Satan et ça va être l'état ardent de feu et de soufre. J'ai hâte à ce jour. OK, on revient à nos cas de démonisation chez les chrétiens. Un chrétien peut être en communion avec les démons. Ça a l'air fou, hein? C'est ce que Paul suggère pourtant. Encore dans la première épître aux Corinthiens, les Corinthiens avaient beaucoup, beaucoup de problèmes. C'était des enfants de Dieu, mais c'était pas mal croche. Et Paul a dû adresser beaucoup de choses. Et dans ce cas-ci, c'est la question des viandes sacrifiées aux idoles. Dans ce temps-là, les viandes, c'était pas comme maintenant. C'était pas cachère non plus. Généralement, les viandes qui se vendaient au marché, ça avait été sacrifié dans un temple d'idoles. Et après, ils les vendaient pour faire de l'argent, je suppose. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Pas de pouvoir magique dans la viande sacrifiée aux idoles. Par contre, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Il y a des démons derrière les idoles. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul envisageait que c'était possible que des chrétiens soient en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Si on pense à la table du Seigneur versus la table des démons, dans les temples païens. Donc, oui, la viande en soi, c'était rien, mais il mettait en garde en même temps. Faites attention. Faites attention de ne pas aller trop loin là-dedans, parce que vous risquez de tomber en communion avec les démons. Là, on n'a pas le temps d'aller en détail là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un chrétien peut être en communion avec les démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Quatrième cas de démonisation, un chrétien peut recevoir un autre esprit. Ça a-tu de l'allure? Toujours aux Corinthiens, dans ce cas-ci, la deuxième épître, la situation est en train de se dégrader. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, des faux enseignements, des faux docteurs, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le chrétien peut recevoir un autre esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Ralph Challis, « Le don de parler diverses langues ». Là, je ne veux surtout pas faire un débat pour ou contre le parler en langue. Ce n'est vraiment pas mon but, absolument pas. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'on doit connaître dans ce livre-là. Il met en évidence que beaucoup de personnes qui ont recherché le parler en langue et qui ont voulu le recevoir un peu n'importe comment, ont reçu quelque chose. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était un démon. Et il y a 12 cas là-dedans qui sont indiqués en détail de comment c'est arrivé et comment ces personnes-là ont dû être libérées d'un faux esprit de parler en langue. Et ça fait référence à une personne qui a dû délivrer au moins 150 personnes au Canada de ce problème-là. Les personnes qui ont reçu ce faux esprit de parler en langue étaient excitées au début, mais éventuellement, leur vie spirituelle déclinait parce qu'ils ont reçu quelque chose d'étranger. Donc, c'est un sérieux avertissement que Ralph Challis nous donne. Maintenant, généralement, les démons vont plutôt rentrer de d'autres moyens, en tout cas à l'extérieur de l'Église. Dans l'Église, ça va être les fausses doctrines, les faux docteurs. À l'extérieur de l'Église, ça va être souvent par des jeux. Ou quelque chose qui a l'air inoffensif. Ici, c'est le livre de Bill McLeod, Fellowship with the Fallen. Personnellement, c'est le livre que je préfère sur le sujet. Et lui, il va dire, c'est un homme d'expérience, un homme qui craint Dieu. D'après mon expérience, la plupart des gens deviennent impliqués dans l'occultisme à travers les planches Ouija. Ça vous dit quelque chose? Toys R Us, allez pas en acheter, mais ça se vend allègrement. Ou en consultant une liseuse de bonne aventure, ou en faisant lire les lignes de la main, ou par une autre technique occulte du genre ayant l'air inoffensive. Ce mot-là est important. Ça a l'air inoffensif. Et c'est là qu'est le danger, la subtilité du piège. Avant d'aller plus loin, j'aimerais établir quelques définitions concernant la magie, parce qu'on parle d'occultisme, mais dans cette présentation-ci, je préfère utiliser le mot magie. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, c'est le petit Robert. La magie, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. C'est ça, la magie. C'est des procédés occultes. Occulte, ça veut dire caché, pouvoir caché. Je peux en parler parce que j'ai été plusieurs années dans l'occultisme. Magie et occultisme, c'est pratiquement synonyme. Un magicien, c'est une personne qui pratique la magie. Un alchimiste, astrologue, devin, enchanteur, etc. C'est encore le petit Robert qui le dit. En passant, prestidigitation et magie, ce n'est pas la même chose. OK? Mais souvent, les mêmes personnes vont faire les deux. Leur but, c'est de séduire d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut faire attention quand même. Mais la prestidigitation, en principe, ce n'est pas de la magie. Fait que le petit Robert nous donne une définition technique. Maintenant, Dieu nous donne, lui, un peu plus une définition morale. C'est quoi la magie au point de vue moral? Dans l'Ancien Testament, on a dans le livre de Deutéronome l'avertissement suivant. C'est avant que le peuple entre en Canaan. Vous savez, le peuple devait entrer en Canaan pour les détruire. C'était la terre promise. Et avant d'entrer, il y avait des avertissements parce qu'il y avait des pièges subtils là aussi. Qu'on ne trouve chez toi, dans ta future maison, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Abomination, on n'utilise pas ça souvent, mais ça veut dire c'est une horreur. Pour Dieu, il y a ça en horreur, ces formes de magie. Autrement dit, ça l'écœure au plus haut point. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Pourquoi Jéricho va être exterminé, complètement rasé? C'est parce que ces gens-là pratiquaient ces abominations, ces choses horribles aux yeux de Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. No way. Dans le Nouveau Testament maintenant, les œuvres de la chair sont évidentes. Pour Paul, c'est évident. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Pour Paul, c'est évident. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'Apocalypse dit, « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, pas de place dans le royaume de Dieu. Sauf, évidemment, si le magicien en question, comme j'étais, se repent devant Dieu et accepte le Seigneur. Mais sinon, dehors, pas de place. Dieu a ça en horreur. Est-ce qu'il y a de la magie parmi nous, frères et sœurs? On va regarder quatre cas réels de quatre personnes qui ont été assez gentilles pour me donner la permission de parler d'eux.